Aix-en-Provence, au cœur d'une institution on ne peut plus particulière. Au beau milieu d'un parc arboré, un bâtiment moderne, immense, se dresse vers le ciel. Le soleil qui s'est levé il y a un peu moins de 2 heures sur la France est vif, intense. Son éclat se reflète dans les vitres impeccablement nettoyées du building. Un calme plat règne à l'intérieur. Ça ne va pas durer. Dans l'impressionnante salle de contrôle, le personnel en poste ne quitte pas les radars des yeux. Leur job, veiller à la bonne fluidité du trafic aérien. Système informatique, radar, radio, ils sont les vigies des airs. Ceux qui, depuis la Terre, veillent sur les voyageurs du ciel. Un membre de l'équipe, plus que les autres, commence son shift avec une pression particulière. Voilà déjà plusieurs minutes qu'il tente de rentrer en contact avec un Airbus A320 de la compagnie Germanwings. L'appareil a décollé de Barcelone un peu plus tôt. Le radar s'affole. La communication semble rompue. Très vite, l'agent perd pied. Fébrilement, il appelle son N+1 parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec le vol 419525. Nous sommes le 24 mars 2015. Il est un peu moins de 9h30 et c'est leur H de mon histoire. Après et depuis janvier 2014, l'adjoint au chef du centre de contrôle en route sud-est, le CRNA-SE. Il est comme chez lui, au milieu des quelques 630 employés qu'accueille la structure. Parmi eux, un peu plus de 450 contrôleurs aériens qui sont chargés de guider au mieux les milliers de vols par jour qui passent sous leur radar. Ingénieur des ponts et chaussées ayant mené une brillante formation à l'école polytechnique, Pierre Outré connaît son job sur le bout des doigts. Alors, quand on l'informe du dysfonctionnement en cours, il ne s'affole pas. Enfin, pas tout de suite du moins. Un avion qui met du temps à répondre à la radio, ça peut se produire. Un contrôleur qui s'affole, en revanche, ça, c'est plus rare. Le responsable décide donc de se rendre dans la salle de contrôle afin de comprendre ce qui est en train de se jouer. Tous les membres du personnel ont les yeux rivés sur leurs écrans. Il n'y en a qu'un qui, suant à grosses gouttes, ne cesse de parler dans son micro. « Vol 419525, vous me recevez ?» Rien. Pas une réponse. Pourtant, à l'image, l'avion continue d'apparaître distinctement. Le directeur adjoint du CRNASE s'approche et tente de comprendre ce qu'il se trame. « Tu penses à quoi ? Une panne de système de communication à bord ? Un bug provisoire ?» Il comprend au regard de son employé et aux données qui s'affichent sur l'écran que la situation semble plus grave, plus préoccupante. L'A320 de la compagnie Germanwings a quitté son altitude de croisière à 11 600 mètres. Le responsable se tend immédiatement. « Quoi, t'as autorisé cette manœuvre ?» Le contrôleur ne répond pas. Il hoche la tête de manière négative. Il appuie inlassablement sur le bouton permettant de se mettre en communication avec le cockpit de l'avion. « Vol 419525, vous me recevez ?» Toujours pas de réponse. Cette fois, la pression monte d'un cran. Le contrôleur a raison de s'inquiéter. Les données montrent que la situation n'est pas normale. Elle est même tout à fait inquiétante. Pierre Outré, dans un premier temps, semble refuser de croire ce qu'il voit. Mais t'es certain que ton système n'a pas planté ? Non. Et c'est bien ça le plus terrible. L'ordinateur renvoie les bonnes infos. L'A320 qui doit relier Barcelone à Düsseldorf semble en grande difficulté. Les données indiquent qu'il ne cesse de descendre très vite, très fort. Chaque seconde, il accélère. Dans ces conditions, le plus terrible est à craindre. Énième tentative d'entrer en communication avec l'appareil. Énième échec, et pour cause. 9h40, l'A320 vient subitement de disparaître des radars. Il ne reste plus qu'une chose à faire en pareil cas. Enclencher la procédure d'urgence. Pierre Outré abandonne le pauvre contrôleur aérien impuissant et va informer sa direction. Pour le reste, il n'a qu'à suivre le déroulé du manuel d'urgence. Première chose, contacter les forces armées. 9h48. À une centaine de kilomètres des locaux du CRNASE, la base militaire d'Orange reçoit un message d'alerte. Ni une ni deux, un Mirage 2000 décolle. Son objectif, retrouver la 320. Pour cela, il doit compter sur les dernières données obtenues sur le radar. Le contact avec l'avion a été perdu au-dessus des Alpes de Haute-Provence, entre Digne et Barcelonnette. Le reste, le pilote de chasse va devoir le découvrir de ses yeux. Le militaire a la mission d'entrer en contact visuel avec l'avion de ligne en errance. Pourtant, et alors qu'il arrive vite sur place, il doit se rendre à l'évidence. Il est seul. Là, dans l'immensité du ciel des Alpes, rien ne bouge. Les monts enneigés sous son mirage semblent ricaner. Ils sont les gardiens d'un mystère qui ne cesse de s'épaissir davantage. Dans les locaux du CRNASE, on attend le rapport de l'armée. Le temps défile, pourtant, sans qu'aucune information n'arrive. 10h15, n'y tenant plus, le directeur adjoint demande des nouvelles. À l'autre bout de la ligne, c'est le silence absolu. Le Mirage n'a toujours pas réussi à retrouver la 320. L'espoir s'étiole, s'amenuise. Sans un nuage, la voûte céleste se drape du voile du malheur. Que s'est-il passé en ce début de matinée de mars 2015? La 320 de la compagnie Germanwings a-t-il été victime d'un accident? A-t-il été détourné, victime d'une attaque terroriste? Ou bien est-il encore permis, alors que l'avion de chasse retourne bredouille à sa base, de croire au miracle et à un dysfonctionnement des systèmes de navigation ou de communication? Retour le 24 mars 2015, 10h30, Digne-les-Bains, dans les locaux de la gendarmerie de Haute-Montagne. Ces militaires sont les gardiens d'une partie des Alpes françaises. Leur mission? Sauver les promeneurs, randonneurs, alpinistes ou skieurs dont la vie peut se retrouver en détresse. Leurs tâches annexes d'enquête, de surveillance et de prévention permettent d'anticiper bon nombre de situations potentiellement critiques. Bref, ce sont des hommes de terrain. Des soldats rattachés aux forces de la défense. Ils vont se retrouver ce matin, plus que jamais, en première ligne. Lorsque le pilote à bord de son Mirage 2000 a fait son rapport à la base militaire d'Orange, le mystère autour de l'A320 s'est épaissi. Il n'a pas pu localiser l'avion, ni dans les airs, ni même au sol. Son appareil ne permet pas de mener une fouille précise au ras des arbres, au contact des montagnes. Les forces aériennes de la défense ont dû se résoudre à informer la gendarmerie de Haute-Montagne de Digne. La situation est on ne peut plus particulière, inhabituelle. Un crash d'avion à cet endroit, cela relève de l'exceptionnel. Il y a bien eu un précédent. En 1953, un appareil de ligne, Air France, s'est mystérieusement écrasé sur le mont Le Cimet, dans le massif du Pelat. L'appareil a certainement été victime de conditions météo difficiles. La catastrophe avait alors provoqué la mort de 42 personnes, marquant les esprits et la région. Depuis lors, le calme plat, du moins jusqu'à ce 24 mars 2015. C'est l'officier gendarme de permanence qui prend l'appel de la base militaire d'Orange. Il comprend immédiatement l'urgence qui se dessine. Persuadé d'avoir affaire à une innommable catastrophe, il met en place avec ses équipes un plan d'action. Le but, découvrir ce qui a pu se passer. Personne, malgré les soupçons, n'est pourtant préparé à la vérité. 4. Un hélicoptère de la gendarmerie décolle en direction de la dernière position connue de la 320. Le médecin et les deux gendarmes à bord doivent littéralement trouver une aiguille dans une botte de foin. En arrivant sur zone, ils sont confrontés à la même situation que le pilote de chasse, il y a une heure. C'est le calme plat. Il n'y a pas d'avion dans le ciel. Et à première vue, aucun débris au sol. L'hélico, se basant sur les ultimes données radar disponibles, se lance dans la recherche des traces du passage de l'appareil de la compagnie Germanwings. À bord de l'hélicoptère de la gendarmerie, les équipes décident de suivre une ligne droite, estimant que l'A320 n'a pas pu dévier de sa trajectoire à haute vitesse. 11h14. L'hélicoptère, bruyamment, se meut au-dessus d'une nature qui doit bien se demander ce qui se passe depuis des heures. En passant tout près du massif des Trois Évêchés, le médecin, dans une zone très isolée, perçoit des arbres arrachés. Il pointe l'endroit du doigt, abasourdi, presque hagard. L'hélicoptère ne tarde pas à tomber sur une carcasse métallique disloquée. C'est bien simple. L'espoir de retrouver des survivants semble, on ne peut plus vain. Un constat s'impose, dès le premier coup d'œil. L'impact a été d'une violence incroyable. Des débris sont visibles sur plusieurs milliers de mètres carrés à flanc de montagne. Arrachés, déracinés, calcinés, les arbres agonisants sont les témoins de cette violence tragique. Si les gendarmes sont si choqués, c'est que l'avion est totalement déchiqueté. Il y a tout de même le numéro d'immatriculation qui, visible de l'hélico, ne laisse subsister aucun doute sur l'identité de l'appareil. D'emblée, une difficulté d'ampleur s'impose au secours. La zone semble inatteignable pour les véhicules terrestres. Il va donc falloir s'employer afin d'acheminer les équipes médicales sur site, avec en ligne de mire un infime espoir, celui de retrouver des survivants. Infime, oui. Si dévasté que les premiers secouristes sont saisis d'effroi, sauf miracle. Ils ne pourront sauver personne. Très vite, l'évidence est insoutenable. L'information fuse dans tous les médias régionaux. Ces derniers, instantanément, sont relayés à l'international. Le crash n'a laissé aucune chance aux 6 membres d'équipage et aux 144 passagers. Tout le monde est mort. La vitesse estimée de l'impact ne leur laissait aucune chance. Sur place, si la mission n'est plus de sauver, celle d'identifier les victimes est indispensable. Une nouvelle fois, les quelques résidus de bagages retrouvés témoignent de la violence du choc. Il faut des heures afin de rassembler les unités nécessaires au bon déroulement des opérations d'identification. Le monde entier, depuis l'annonce du drame, s'agite, s'émeut d'une telle catastrophe. Un crash d'une telle ampleur est si rare dans les Alpes que l'émotion est totale. Bientôt, les familles des victimes sont contactées. Lufthansa, maison mère de Germanwings, elle reste dans le silence. Et pour cause. À ce stade, impossible de tirer des conclusions sur les causes de l'accident. Pour cela, il va falloir mettre la main sur des éléments clés. Les boîtes noires. Appareils installés dans tous les avions ont pour charge de stocker les informations essentielles enregistrées durant chaque vol. De deux types, elles contiennent pour l'une les conversations ayant lieu dans le cockpit, les communications radio ainsi que tout autre type de bruit, notamment les alarmes. Pour l'autre, il s'agit de rassembler tous les paramètres techniques du cap de l'avion à sa vitesse en passant par son altitude, etc. Le système est spécialement conçu pour résister à tout type de choc et d'aléas climatiques. Ainsi, les boîtes noires peuvent généralement supporter les impacts, le contact avec le feu ou la pression de l'eau. Mettre la main dessus, c'est donc se donner la possibilité de comprendre les tenants et aboutissants de la catastrophe. Mais rappelez-vous, ce sont des milliers de mètres carrés qui sont recouverts de débris. Mais là encore, les enquêteurs vont devoir rechercher une aiguille dans une botte de foin. Les heures s'enchaînent, sans que les équipes sur place ne puissent trouver les dispositifs disparus. Pourtant, ils sont prévus pour être visibles. Leur couleur, orange vif, doit permettre de les localiser facilement. Mais il faut bien le dire, à ce stade, c'est le chaos qui règne en maître absolu sur la montagne. 25 mars 2015, 11h. Sous un bout de fuselage, plus de 24 heures après l'impact, une des boîtes noires est enfin retrouvée par des gendarmes. Il s'agit de celle qui enregistre les communications émanant du cockpit. Elle est immédiatement transférée à Paris, et prise en charge par les services compétents de l'État français. Mais celles et ceux qui pensaient pouvoir rapidement connaître les tenants et les aboutissants du mystère de la 320 vont être déçus. C'est un travail de fourmi qui commence en réalité. La première conférence de presse, quelques heures après l'arrivée de l'engin à Paris, laisse transparaître la prudence des enquêteurs. Le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, en charge de la procédure en cours, annonce qu'il lui faudra plusieurs jours avant de fournir ses premiers résultats. Son rapport définitif, pourtant, n'est pas attendu avant plusieurs mois, une éternité que beaucoup ne sont pas prêts à attendre. Des murmures autour du crash commencent dans le même temps à poindre. La boîte noire, très rapidement, aurait fourni des éléments inquiétants. Réelle fuite ou fake news ? Ah, difficile de le dire à ce stade. Les bruits de couloir ne vont pas tarder à laisser place à une véritable déflagration. Le monde n'est pas préparé à l'info qui vient. L'A320 de la compagnie Germanwings n'a pas été victime des conditions climatiques ou d'un dysfonctionnement mécanique. La vérité semble beaucoup plus sordide. L'A320 s'est crashé dans les Alpes il y a à peine 48 heures. Une des boîtes noires a été retrouvée la veille et est en cours d'analyse. L'Europe, de son côté, s'éveille en état de choc. La presse américaine vient de publier une véritable bombe. Rémi Jouty est le directeur du BEA, l'organisme chargé de l'enquête depuis Paris. La veille, il a tenu une conférence de presse qui a remué bon nombre de questions, y compris celles liées aux responsabilités du crash. Ses équipes sont à pied d'œuvre, jour et nuit, afin de tirer des conclusions. Certaines tendances, déjà, semblent se dégager, mais sans certitude. Pourtant, ce matin, alors qu'il arrive à son bureau, une marée d'appels téléphoniques le submerge. À l'autre bout du fil, essentiellement des journalistes, qui lui demandent sa réaction officielle face aux révélations de la nuit émises par la presse américaine. Des révélations ? D'emblée, le patron du BEA se connecte sur son ordinateur, remonte la piste et tombe de sa chaise. Le New York Times, il y a quelques heures à peine, vient de jeter un pavé dans la mare. Le journal affirme qu'un acte volontaire causé par un membre de l'équipage est responsable de la catastrophe. Rémi Jouty est abasourdi. Le BEA, déjà au moment de la conférence de presse de la veille, se doute que la tragédie pouvait ne pas être accidentelle. L'organisme, en voulant éviter un éventuel mouvement de colère générale, a préféré taire l'information. Une taupe en a décidé autrement. Le directeur se rue sur son téléphone. Alpague avec véhémence les responsables de la gendarmerie. Aucune chance que ces enquêteurs à lui soient à l'origine de la fuite. Ces gars sont formés pour garder le silence, muets comme des tombes. Voilà ce qui pourrait être leur devise. Mais ils sont très peu, les gradés de la gendarmerie, à avoir eu connaissance de l'information sensible. Et puis Jouty se bat contre le vent. Il paraît vite impossible de faire avouer aux Américains le nom de l'informateur. La bombe, lâchée par la presse de toutes les manières, va entraîner une accélération de l'enquête en quelques minutes. Face à cela, le dirigeant du BEA va devoir stopper net sa chasse aux sorcières. Un de ses collaborateurs, Altan, vient le trouver avec une information capitale. Sans même frapper, il entre dans le bureau de son directeur. « Monsieur, on m'annonce que le procureur de la République de Marseille va prendre la parole publiquement. » Et ce, d'une minute à l'autre. C'est le branle-bas de combat à Paris. À l'autre bout du pays, non loin de la Canebière, le proc, chargé de l'enquête, lui, s'apprête à enfoncer le clou. Nous sommes toujours le 26 mars 2015, il est 8 heures. Le procureur de la République, Brice Robin, a connu meilleur début de journée. Sa conférence de presse s'annonce, animée. C'est le moins que l'on puisse dire. Comme toutes les parties prenantes de l'enquête, il a pris connaissance de l'article du Times. Il va devoir réagir. Le hic, c'est qu'il a été tenu à l'écart, alors même qu'il est le responsable de l'enquête. le BE1, ne lui a donné aucune info jusque-là. Il lui a fallu attendre ce début de matinée pour qu'on le tienne au courant des ultimes avancées. Alors, c'est peu de le dire, il est furax. Les journalistes qui l'attendent à l'affût n'ont de leur côté qu'une seule question. Et si les insiders US disent vrai? Et si l'accident n'en était pas vraiment un? La première prise de parole du proc ne va pas amoindrir les doutes et les questionnements. Je viens tout comme vous d'apprendre les révélations du Times. J'étais auparavant pas au courant. Il nous faut rester prudents pour le moment. Les appareils photo crépitent. Les voix s'élèvent. C'est toute la salle de presse qui se meut dans une consternation à la hauteur du scoop américain. Les questions fusent. Quelle est la motivation pouvant conduire à un tel acte volontaire? Un détournement, une attaque terroriste, à moins que ce soit pire. Un journaliste du fond de la salle ouvre le bal. Monsieur le procureur, les bandes audio de la boîte noire ont-elles permis d'identifier un coupable? Devant Brice Robin, un téléphone se met à vibrer.